Direct en jeu, la radio insolite, direction le siècle précédent, le millénaire précédent. Excuse-moi, Patrick, désolé. Alors, je suis avec un, comment est-ce qu'on pourrait dire, un grand bonhomme? Comment est-ce qu'il faut te présenter, Patrick?
Alors, grand par la taille, oui, certes. Même si je me suis un peu tassé, je dois encore être à 1,87 ou 1,88. Et puis un vieux bonhomme, oui, c'est vrai, un mec du millénaire précédent.
Ben, comme beaucoup de gens, comme moi. Hein.
Oui.
Tout se passait par là. Alors, grand bonhomme, parce que c'est vrai que je pourrais te chanter la chanson de Julio Iglesias, tu n'as pas changé. Parce que ben, quand on te voit dans des films ou quand on te voit à la télévision,
ouais.
On voit que tu as grandi. Bon, maintenant, tu as les lunettes, c'est important. Mais
ouais.
si je fais un résumé, c'est... Les sous-doués, c'est la classe de Fabrice. Et puis, alors, j'en passe des meilleurs. J'étais sur ta page Wikipédia. Il y en a tout un laïus assez conséquent. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu la révélation quand tu étais tout petit?
Bah, écoute, en fait, j'étais d'une famille pas du tout d'artistes et de comédiens. Mon papa était ingénieur, ma mère, elle était comptable. Il me destinait à des études tout à fait honorables et je les ai beaucoup déçus. Parce que j'ai eu le goût de la scène très jeune. Je suis tombé dans une troupe amateur de comédie musicale. Et du coup, j'ai eu une espèce de révélation, quoi. Je me suis dit, mais c'est ça, c'est là que je veux être. C'est sur une scène avec des gens en face qui rigolent, qui chantent, qui applaudissent. Et puis voilà, donc après le bac, plutôt que d'aller en préparation HEC, ce qui était ma destinée parentale, j'ai dit non, je suis désolé, j'ai envie de faire l'acteur, c'est ça que j'ai envie de faire. Ce qui n'a pas plu à mon père, qui m'a dit bah, tu te débrouilles, je te coupe les vivres et tout. Bon, alors je me suis mis à bosser dans une banque, et puis j'ai commencé à prendre des cours de théâtre le soir. Un petit cours André Lambert au tout début, et puis un an plus tard, j'ai débarqué au cours Florent. Après, j'ai eu le concours de la rue Blanche, et puis très vite au cours, il y a une jeune comédienne qui sortait, elle, du cours Périmony, qui voulait monter une première pièce à Avignon avec son mec en 77. Tu vois, ça remonte. Oula. C'est bientôt mon jubilé. Et elle a débarqué au cours Florent, elle a trouvé que j'avais une tête bizarre et drôle. Et donc, elle m'a pris pour faire ce spectacle. Et cette personne, c'était Charlotte de Turckheim, qui était totalement inconnue, bien sûr. Hein, ça se dit, elle sortait de cours. Mmh. Et on a fait un premier festival d'Avignon en juillet 77. J'ai joué le bonbon magique par la troupe des éléphants roses. Ça fait un peu mec qui se drogue quand même à la troupe des éléphants roses. Mais bon. Et c'était très joyeux. On a cartonné. On est revenu à Paris. On a eu un coup de bol terrible. Coluche... nous a envoyé sa femme et son meilleur pote Gérard Lanvin, qui ont adoré le spectacle. Il a dit, les gars, je vous aide. Il nous a fait passer au café de la gare. Il a loué, il nous a avancé 3 mois de location de la salle. Et il nous a fait de la pub sur Europe 1. On a blindé, on a refusé du monde. Donc ça démarrait plutôt pas mal, quoi. Voilà. Et puis après, effectivement, j'ai fait mon bonhomme de chemin. J'ai écumé les cafés théâtres. J'ai tourné un peu dans ma jeunesse. Maintenant, je tourne pratiquement plus. Mais voilà, oui, j'ai fait deux, trois trucs. Qui ont bien cartonné, dont les sous-doués, dont on me reparle toujours 45 ans plus tard. Mais c'était joyeux. D'ailleurs, il y a une autre sous-douée à Avignon, il y a Hélène Zidi qui a un théâtre aussi à Avignon.
Exactement, avec sa fille qui va jouer cette année.
Donc on a beaucoup, beaucoup de plaisir à se retrouver, toujours. Et puis, je me suis de plus en plus orienté vers le théâtre. Et j'ai surtout une très grande carrière théâtrale. Quoi. J'ai passé... en moyenne, sur les 40 dernières années, j'ai dû être 200 ou 250 fois par an sur une scène de théâtre. Donc,
seulement.
Ça a été mon activité principale. Et puis, il y a quelques années, avec mon complice de 40 ans, Julien Caffaro, on a eu envie de, on galérait un peu à monter des projets avec des directeurs de théâtre parisiens et tout, et on s'est dit, et si on avait notre lieu à nous? Et voilà. Et on a notre lieu à nous, l'Oriflamme, depuis 4 ans. Ça va être notre 4e festival. Et on a beaucoup de plaisir à voir que l'Oriflamme, aussi bien auprès des spectateurs que des journalistes, que des professionnels, que des chargés de diffusion, que des gens qui cherchent des spectacles, de plus en plus on a des retours. Ah, mais vous savez, j'ai remarqué qu'il y avait toujours une bonne programmation à l'Oriflamme, donc il y a toujours des pépites, chaque année il y a des pépites, donc je vais toujours voir tout de suite qu'est-ce qui se passe cette année à l'Oriflamme. Donc ça fait, tu l'imagines, extrêmement plaisir.
Ah, moi, je me rappelle, il y a 4 ans, quand vous êtes lancés les deux, moi, j'ai été impressionné parce que déjà, vous aviez une exigence de programmation assez conséquente. Et là, bah, oui. Je dirais ça continue. Alors, est-ce que c'est le fait justement que vous venez de ce monde-là qui fait qu'aujourd'hui, pour diriger un théâtre, c'est beaucoup plus facile?
Écoute, oui, c'est plus facile, évidemment. On a une expérience, mais on s'est très vite rendu compte que directeur de théâtre, c'était totalement un autre métier. Et donc, on a appris, on continue d'apprendre. Hein, mais ce qu'on s'est dit, c'est que on arrive là avec une carrière déjà bien avancée. Et les deux choses qui étaient très importantes pour nous, c'était l'exigence au niveau de la qualité des spectacles. Faut que ça nous plaise à tous les deux, à Julien et à moi. Mmh. Un spectacle qui rentre à l'Oriflamme, c'est parce qu'il a eu le coup de cœur des deux patrons. Et ce, quel que soit le domaine. Parce que à la fin de la première saison, on nous a un peu reproché, on nous a dit oui, mais vous savez, vous avez une programmation très éclectique, il y a de la musique, il y a du moderne, il y a du classique, il faut vous spécialiser, il faut que votre théâtre ait une image et ça sera. Et on a refusé ça, parce que nous, on a des goûts très éclectiques, on aime rire, on aime pleurer, on aime chanter, et on aime toutes sortes de spectacles. Donc là, vraiment, la seule règle, ça a été le coup de cœur de nous deux. Et puis la deuxième chose qui était très importante aussi, on a des enfants, et on trouve qu'il y a des jeunes formidables, mais pas que nos enfants, et c'était la transmission, c'est-à-dire donner leur chance à des jeunes. Moi, j'ai fait mon premier festival en juillet 77. Il y a un théâtre qui a dit OK, banco, vous pouvez venir chez moi. Et ben, chez nous, c'est pareil. Pratiquement chaque année, jusqu'à maintenant, les 3 premiers festivals, chaque année, on a des jeunes dont c'est le premier spectacle et qui cartonnent. On a eu Naïs la première année de Pagnol qui jouait à 10h du matin. Au bout de 3 jours, c'était plein. Et le théâtre était inconnu totalement. On ouvrait et ils ont cartonné. L'année suivante, ça a été Heureux les orphelins. Pareil, ils sortaient de cours, ils n'avaient jamais rien fait. Mm-hmm. Blindés, complets. Et l'année d'après, ils sont passés aux Gémeaux. Ils ont blindé les Gémeaux et retournent aux Gémeaux cette année. Et l'année dernière, on a eu 2 spectacles de jeunes qui ont cartonné. On a eu Fille d'Ariane, pareil, c'était leur premier spectacle. Et puis, on a eu Les Enfants du Diable. Alors, Clémence Baron, elle, c'était pas son premier spectacle, mais elle est très jeune, elle a 28 ans. Et enfin, elle les a plu. Je crois qu'elle vient d'avoir 30. Mais voilà, la transmission, que des jeunes donnent leur chance à des jeunes pour qu'ils. Eh ben, ça marche. Et les jeunes, ils font des choses formidables.
Alors, il y a 2 jeunes cette année. Il y a un petit jeune qui s'appelle Julien Joubert et un deuxième qui est vraiment très jeune qui s'appelle Thierry Beccaro.
On a tous les âges, on a toute la palette d'âge à l'Oriflamme.
Ben oui.
On a aussi, alors dans les gens mûrs avec de l'expérience, il y a aussi, Pierre Forest, Solitude d'un ange gardien, qui avait eu le Molière du meilleur comédien dans un second rôle en 2017. C'est une bête de théâtre.
Alors, ce que j'aime, c'est que tu es acteur, mais tu es aussi metteur en scène. Et
oui.
Alors, dans le raisonnement tout bête, j'en ai parlé avec quelqu'un hier, qui me disait, ah bon, donc il doit produire tous les spectacles qu'il met en scène.
Non.
Ah.
Non. Non, je ne produis pas, je suis engagé par une prod pour faire une mise en scène. Même s'il nous arrive, à l'Oriflamme de faire des co-réalisations, on fait soit des locations, soit des co-réalisations. Mmh. Mais c'est pas synonyme. Enfin, c'est pas parce que je suis metteur en scène qu'on est en Corée. On a des spectacles en Corée où je suis pas metteur en scène. Et enfin, tous les cas de figure sont possibles, mais c'est pas lié. En tout cas, c'est pas lié.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à l'écriture ?
À l'écriture. Alors, à l'écriture, j'y suis pas encore. Enfin, je commence.
Pardon, la mise en scène, je veux dire.
Ah, la mise en scène. Bah, la mise en scène, j'en fais depuis longtemps. J'en ai pas fait beaucoup. Et en vieillissant, j'ai peut-être plus envie de mettre en scène que de jouer. J'aime toujours jouer, hein. J'ai joué 2 spectacles formidables ces derniers mois. J'en joue un autre à la rentrée à Paris, mais metteur en scène c'est réussir à ce que l'acteur en face de toi donne le meilleur de lui-même. Et ça, c'est passionnant parce qu'il n'y a pas une méthode. Il faut vraiment chercher dans la psychologie du comédien comment faire pour tirer le meilleur. Il y en a certains, il faut être un peu directif, un peu, pas violent, mais un peu brusquer un peu certaines choses pour casser des trucs. Il y en a d'autres, au contraire, il faut y aller avec une douceur infinie. Et c'est, il y a toute une psychologie du comédien. Et ça, c'est passionnant, c'est jamais pareil. Il n'y a pas deux comédiens qui se ressemblent, il n'y a pas une manière de sortir le meilleur d'un acteur, il y en a 10 000, quoi. Il y en a autant que d'acteurs. Et c'est vraiment, ça me passionne, j'adore ça.
Et si j'ai bien compris, tu m'as dit que tu te mettais dans la feuille blanche et que tu allais commencer à écrire.
Oui. Je co-écris, donc ça sera peut-être une production de l'année prochaine à l'Oriflamme. D'accord. Je co-écris avec une jeune, voilà.
C'est une évolution naturelle ?
Ça me trotte dans la tête depuis longtemps et je suis jamais allé au bout d'un parcours, mais là j'ai l'impression que ça y est, la pièce elle est pratiquement terminée et donc elle devait même se monter cette année. On n'a pas trouvé tout l'argent. Donc je pense que ça sera pour Avignon 2026 la création.
Ah, d'accord, 25 n'est pas encore passé, tu penses juste déjà dire, 26.
Ça s'appelle peine perdue.
Peine perdue.
Voilà.
D'accord.
Peine au pluriel. Peine perdue au pluriel.
Bon, je suppose qu'à une dizaine de jours de l'ouverture, tu es déjà un peu occupé.
Ah, pas mal, oui. Ça fait un moment même. Et j'ai deux spectacles en plus qui me prennent beaucoup parce que j'en fais la mise en scène cette année. C'est la première fois que j'ai deux spectacles où je suis metteur en scène en même temps. C'est Les Enfants du Diable, en fait, qui est une reprise de l'année dernière, qui avait fait un carton l'année dernière. Et je vois là les réservations, je pense qu'ils vont être complets de A à Z. On est déjà très, très, très remplis. Les Enfants du Diable, qui pourtant, c'était un sacré pari, ça. Quand j'ai lu la pièce, c'est Dominique Claude qui m'a fait lire la pièce de cette jeune autrice, Clémence Baron, qui avait 28 ans quand elle a écrit ça. Qui parle des orphelinats mouroirs à l'époque de Ceausescu. Je peux te dire que j'ai fini la pièce, j'étais pratiquement en larmes, je me suis dit je veux monter ça. Et après il y a eu le directeur de théâtre tout de suite qui a dit au metteur en scène oui mais t'emballe pas parce qu'avec un sujet pareil, déjà les jeunes ils connaissent pas Ceausescu, ils savent même pas qui c'est, et avec un sujet aussi dur, t'auras personne dans ta salle. Et puis le metteur en scène a pris le dessus sur le directeur. Le metteur en scène, il a dit non, faut pas, on peut pas passer à côté de cette pièce. Et ça a été la divine surprise de voir que c'était plein à craquer, qu'il y a eu un bouche-à-oreille formidable. Et notamment et surtout, on a eu beaucoup beaucoup de jeunes. Et ça c'est génial. Et je te dis, cette année les réservations ça se passe très très bien. On s'est mis à re-répéter là il y a une dizaine de jours, et j'ai eu un bonheur à les revoir, à les réécouter. Ils n'avaient quasiment rien perdu d'une année sur l'autre, parce que dans l'année, ils l'ont joué que deux fois, tu vois, il y avait eu deux dates. Là, on va enchaîner, parce qu'après Avignon, on reprend à Paris de fin novembre à fin mars, au studio Héberto. Donc, c'est une pièce qui a pas du tout, qui est en début de parcours, et qui va faire, je pense, un très beau parcours.
Et puis, ce qui est chouette, ce qui est chouette aussi, c'est que Les Enfants du Diable, c'est basé sur une histoire vraie.
Ah oui, complètement. C'est la jeune femme qui a écrit ça. Elle a écrit ça en hommage à sa sœur, Mirella, qui était une enfant du diable, c'est-à-dire une enfant qui a passé sa vie son début d'existence dans les orphelinats de Ceausescu, qui était orpheline, et qui a été adoptée par les parents de Clémence, la maman était humanitaire, elle était médecin sans frontières ou médecin du monde là-bas en Roumanie. Elle a fait partie de ceux qui ont découvert les orphelinats mouroirs de Ceausescu. Elle est revenue, elle a convaincu son futur époux de s'engager, de monter une association humanitaire. Ils ont fait des prouesses là-bas, ils ont réuni des millions pour améliorer ces orphelinats. Et ils sont tombés fous amoureux d'une petite fille qui était autiste, Mirella. Et Mirella est venue à l'Oriflamme l'année dernière voir un peu l'histoire de sa vie. Alors c'est adapté, c'est romancé, mais c'est complètement inspiré de la vie, du début de vie de Mirella. Oui, c'est très touchant. Et donc la deuxième pièce que je mets en scène, plus à l'opposé, je crois que tu peux pas. C'est un spectacle musical, l'Hôtel du Pin Sylvestre. C'est drôle. Il y a des acteurs, chanteurs, danseurs formidables. Ça bouge, c'est burlesque, c'est voilà, il y a on s'en fout de l'histoire, enfin c'est un prétexte l'histoire, il y a un tableau qui est volé dans un hôtel, mais c'est joyeux, c'est gai et on a mis ce spectacle en fin de journée à 20h20 et les gens vont sortir avec des fous rires et des airs dans la tête qui vont garder en tête pendant un moment parce qu'il y a des trucs, il y a un ou deux tubes quand même je pense dans ce spectacle. Donc c'est pareil, les réservations démarrent bien, mais cette année vraiment globalement à l'Oriflamme les réservations démarrent bien et je crois que c'est dû à cette fidélité maintenant des spectateurs qui commencent à nous suivre et à se dire l'Oriflamme on y va.
Ah oui, là-dessus.
Pourvu que ça dure.
Comment est-ce qu'on fait pour réserver au cas où? Parce qu'il y a 8 spectacles quand on est présenté à l'Oriflamme.
Il y a 8 spectacles, oui. Alors, pour réserver, il y a tous les sites de billetterie. Il y a le site de l'Oriflamme, qui est l'Oriflamme, tout attaché en minuscule, l-O-R-I-F-L-A-2-M-E-Avignon.fr. On peut réserver pour les 8 spectacles directement avec sa carte bleue, c'est très simple. Et puis sinon, il y a tous les sites de revendeurs, Ticket Off, Billets Réduc, et puis il va y avoir aussi la FNAC, mais c'est pas encore en ligne, ça sera en ligne je crois aujourd'hui ou demain, mais on pourra aussi passer par la FNAC. Mais bon, moi je trouve que le plus simple c'est de passer directement par le théâtre, mais les gens font comme ils ont l'habitude, comme ils préfèrent. Et à partir du 30 juin, on pourra bien évidemment aussi réserver par téléphone sur le fixe du théâtre au 04 88 61 17 75. 04 88 61 17 75. Voilà, tu sais tout.
Alors, il y a une chose importante. Vous savez que le festival Off d'Avignon colle aux dates du festival In cette année. Il commence du 5 juillet au 26 juillet. Mais attention, oui. Il n'y a que Thierry Beccaro qui va commencer le 5 juillet. Tous les autres commencent le 4. Donc, ça veut dire que voilà.
Oui, les autres commencent le 4. Il y a un tarif spécial le 4, c'est 12 euros pour tout le monde. C'est histoire, parce que la plupart des spectacles ont souhaité... Le 4, on fait toujours la générale. Ouais. Et après, chaque compagnie décide est-ce qu'elle veut accueillir du public ou pas, gratuit, pas gratuit. Donc, voilà, on s'est dit, pour les Avignonnais, c'est peut-être un bon moyen d'aller voir des pièces pas chères, d'y aller un jour avant. Et c'est bien aussi pour les comédiens d'avoir un peu de monde dans la salle pour déjà juger les réactions, où est-ce que les gens rient, où est-ce qu'il faut qu'ils fassent attention. Voilà, donc ça sera sûrement pas très rempli le 4, mais avis aux amateurs et notamment aux Avignonnais, parce que les festivaliers ne seront peut-être pas encore là. Le 4, on peut voir des spectacles à l'Oriflamme à 12 euros, sauf celui de Thierry, parce que Thierry, c'est vraiment... Il l'a jamais joué encore en public. Tous les autres, ils ont déjà joué en public au moins 2-3 fois. Ils ont eu des petites séances de rodage. Lui, ça va être sa toute première à Avignon. Donc, il a préféré garder le 4 en vraie dernière répétition générale et sans public. Donc, Thierry, qui a un spectacle magnifique aussi, qui est adapté de son best-seller, qui était Je suis né à 17 ans. C'est un enfant qui a été battu. Et il a raconté ça dans un livre qui a fait un carton, il en a fait un film aussi. Et là, l'auteur Robert-Emmanuel Espalieu s'est inspiré du livre de Thierry pour écrire une vraie pièce. Hein. C'est pas l'histoire de Thierry, mais ça s'en inspire. Et c'est un spectacle où Thierry est absolument bouleversant, touchant. Et il peint un tableau pendant son spectacle. Et à la fin du spectacle, il vendra le tableau au profit de l'enfance. Battu ou voilà, enfin, ça sera pour la bonne cause. Je sais plus si je crois que c'est pour l'UNICEF ou quelque chose comme ça.
Ok, écoute, moi je vais te remercier d'avoir pris ces minutes pour nous présenter d'une part les deux spectacles que tu mets en scène et puis surtout la programmation de l'Oriflamme. N'hésitez pas à vous faire plaisir, je peux vous dire que l'Oriflamme depuis 4 ans c'est une valeur sûre.
Oui.
Là-dessus, il ne faut pas hésiter. Et puis alors, si vous avez la chance de rencontrer les deux personnages, Patrick et Julien, là, vous avez, c'est carrément le bonheur intense et vous aurez pas raté
votre. Il y a toujours au moins l'un des deux.
Exactement. Merci à toi.
Merci Alain, bonne journée.